cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 15 novembre 1995.
Nous allons entrer dans ce problème de l'éthique chrétienne qu'il faut de fait essayer ensemble d'élaborer, voir comment d'abord découvrir l'ordre, puisque le propre du sage, c'est d'ordonner, en comprenant que nous sommes dans cette éthique dépendants de ce que dit la révélation, que le philosophe peut respecter. Il n'entre pas dans la révélation, mais il peut la respecter. Il a une attitude différente entre la révélation et les traditions religieuses. Les traditions religieuses, elles sont un mode humain. Ayant un mode humain, le philosophe peut les corriger. La révélation, elle ne s'impose comme ayant un mode divin. Elle est reçue par la foi. Oui, il faut donc distinguer deux modalités de la tradition. Les traditions religieuses, qui ont un mode humain, et le mystère de la tradition, qui est à l'intérieur de la révélation, et qui enveloppe la révélation. Il ne faut jamais confondre les deux. Mais ce que je crois très important, dès le point de départ, à préciser, ça je peux le préciser au point de vue critique, le philosophe a une attitude différente à l'égard des traditions religieuses qui ont un mode humain. Et la révélation. Et pourquoi a-t-il cette double attitude? Parce que les traditions humaines se présentent comme un patrimoine humain. L'inspiration, la révélation se présente comme supra-humain, puisque elle est reçue par le croyant dans une attitude de foi. Et donc je dois respecter cette attitude du croyant, même si je ne la comprends pas, même si je ne pénètre pas dedans, je la respecte comme on respecte l'homme dans ses opinions les plus profondes. Je peux évidemment, quand il s'agit d'opinions purement humaines, essayer de voir si ces opinions sont raisonnables ou pas. Je peux faire la même chose par rapport aux opinions. Pour le philosophe, c'est une opinion, ces opinions de croyants. Et je peux critiquer de l'extérieur pour voir l'authenticité de ces opinions de croyants. Je ne le fais pas ici, hein. Mais au moins ce serait quelque chose de très intéressant par rapport au mystère de Jésus. Mais le livre du père de Grand Maison au début du siècle est un livre qui est au fond fait un peu dans cette perspective-là. Qu'est que peut-être Jésus pour le philosophe? Oui, je crois que c'est la première question qu'il faut se poser. Pour le philosophe, que peut-être Jésus? Mais pour le philosophe, qu'est-ce que c'est que Socrate? Pour le philosophe, quel c'est Jésus? Quelle différence y a-t-il pour le croyant entre Socrate et Jésus? On a écrit des parallélismes, c'est pour ça que je prends exprès ce parallélisme. Parce qu'au fond, dans l'histoire de notre Europe, dans l'histoire de la Grèce, Évidemment, Socrate a joué un rôle très important. Je crois que c'est le personnage qui a joué le rôle le plus important. Il n'a pas écrit, il n'a rien écrit. Et il y a trois traditions sur Socrate. Jésus n'a rien écrit et il y a quatre traditions sur Jésus. Marc, Matthieu, Luc, Jean. C'est vrai. Il y a le Jésus de Marc, le Jésus de Matthieu, le Jésus de Luc, le Jésus de Jean. Et les différences de Socrate, c'est que ce Jésus de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, c'est le même. Mais vu à travers le symbolisme du lion, du jeune taureau, du visage d'homme et de l'aigle. Le philosophe peut regarder ça comme ça. Et même, je crois qu'il doit le regarder comme ça. Il ne peut pas dire a priori, c'est le même Jésus. Mais s'il peut le dire, après avoir étudié le Jésus de Marc, le Jésus de Matthieu, le Jésus de Luc, le Jésus de Jean, c'est le même. Mais avec trois aspects très différents. Entre Luc et Jean, il y a des parentés. Entre Luc et Matthieu, il y a des parentés. Mais il y a aussi beaucoup de diversité. Mais c'est le même. Vous voyez donc, il y aurait là un premier travail qui a été fait. Je vous dis, Jésus de grand maison est quelque chose qu'il faut au moins avoir parcouru. Parce que ça demeure quelque chose de très grand. Je ne crois pas qu'il y ait d'œuvre analogue à celui-là, moderne. Le père de grand maison avait un regard qui est humaniste, sans être hyper critique. Il est quand même quelqu'un qui montre le visage historique de Jésus. Parce qu'au fond, c'est ça. Quel est le visage historique de Jésus? En supprimant les a priori, le visage du chrétien n'est plus un visage historique. Le chrétien qui resterait uniquement sur un visage historique par rapport au Christ n'est pas chrétien. Il est historien. Le croyant est au-dessus de l'historien. Parce qu'il a un contact direct avec Jésus. Je vis non pas de Jésus historique, mais de Jésus qui est et qui existe maintenant. C'est bien Jésus que l'historien atteint, c'est sûr. Mais je ne l'atteins pas dans la lumière d'historien. Je l'atteins dans la lumière de la foi qui me permet d'atteindre directement Jésus. C'est le propre du croyant. Celui qui ne dit pas ça, il n'est pas croyant, tout simplement. Sa foi est retombée dans un mode humain. Vous voyez, c'est très important aujourd'hui de comprendre ça. Parce que vous pouvez discuter 107 ans avec quelqu'un qui se dit croyant parce qu'il est baptisé. Et qu'au fond, il a un regard d'historien. Là, vous pouvez lui dire ça ne m'intéresse pas moi, en tant que croyant. Ça m'intéresse, mais secondairement, ce n'est pas la lumière que j'ai sur le Christ. La lumière que j'ai sur le Christ, c'est qu'il est le Fils bien-aimé du Père. C'est ça le croyant. Il est le Fils bien-aimé du Père. Donc, il est celui qui est descendu du ciel et qui demeure dans le ciel tout en étant sur la terre et qui remonte auprès du Père. Étant auprès du Père, il demeure présent au milieu de nous. Et le sacrement de l'Eucharistie, le croyant, est ce signe divin qui me montre qu'il est présent. Sous un mode très particulier, mais il est présent au milieu de nous. Il est là. Pour le croyant, le Christ est au-delà du temps. Christ est la même que celle de Marie, est la même que celle d'Abraham. Il y a une réalité divine que j'atteins directement. La foi me permet d'avoir un contact direct avec l'éternité et de faire que l'éternité pour moi est la réalité la plus actuelle. Ce n'est pas l'instant présent qui est l'actualité, qui est la réalité la plus actuelle. Pour le croyant, il ne s'agit pas de vivre de l'instant présent. Pour le croyant, il s'agit de vivre de l'éternité. Parce que souvent on dit, le réaliste, le croyant, c'est de vivre de l'instant présent. Mais non, ça c'est le philosophe. Le philosophe doit vivre de l'instant présent. Et le chrétien vit l'éternité. Donc, le jugement d'existence du philosophe et du croyant n'est pas le même. Et le jugement d'existence du philosophe est assumé par le croyant. C'est intéressant pour nous, vous voyez, parce que ça nous montre l'importance en tant que croyant, l'importance du jugement d'existence. Si vous n'êtes pas convaincu philosophiquement que le jugement d'existence est capital, soyez-le chrétiennement, en attendant d'en être convaincu philosophiquement. Je dis ça pour ceux qui doutent encore. Hein. Le jugement d'existence, vous verrez peut-être tout en ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça du tout. En tant que croyant, votre jugement touche quelqu'un qui vit éternellement. Et l'éternité est source du temps. En tant que croyant, vous devez le dire. Et quel est le point de contact que vous avez avec l'éternité en tant que philosophe? C'est l'instant présent. Puisque l'instant présent seul existe. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Ils existent intentionnellement. Le passé et le futur. Le seul instant présent existe. Et donc il est le seul à être directement en contact avec l'éternité. Alors votre jugement de croyant qui touche l'éternité implique le jugement d'existence du présent. Ceci est. Alors ça, pour le croyant, c'est absolument sûr, si vous avez une vraie foi, qui montre, en tant que croyant, que le jugement d'existence a une place unique parmi tous les jugements, puisque c'est le contact avec l'éternité. C'est quand même très étonnant, ça. Alors évidemment, c'est un argument qui vaut pour le croyant. C'est un argument qu'il ne faut jamais employer en philosophie. Quoique, en sagesse philosophique, quand j'ai découvert Dieu, que je découvre que Dieu est éternel, je découvre que l'acte créateur de Dieu, de mon âme, est actuel. Et donc dans mon « je suis », je rejoins l'acte éternel de Dieu. Je le rejoins, comprenez-le bien, de l'extérieur, pas de l'intérieur. De sorte que je ne peux pas dire que par le « je suis » j'ai contact avec l'éternité. Mais je peux dire que par le « je suis » je vois le reflet de l'éternité en moi. Et je ne saisis que le reflet. Mais c'est le reflet actuel. C'est très beau, ça. Et c'est très grand. Alors, voyez, vous avez trois jugements. Jugement d'existence, le « je suis » et « je crois en Dieu créateur ». « Je crois en Dieu Père » dans le Christ à la croix. Je rappelle ça parce que c'est important de voir que le philosophe n'est pas étranger à moi. Donc la révélation n'est pas une chose impossible. C'est important, ça. Si je suis croyant, si je suis philosophe, et que j'atteins l'existence de Dieu, et que je vois que Dieu crée mon âme actuellement, je vois que la révélation n'est pas une chose impossible, puisque mon Créateur est tout-puissant. Et donc, il peut dépasser mon conditionnement humain et intervenir en moi comme il le veut. Et quand il le veut, il peut donc m'éclairer directement. C'est pas impossible. Je ne peux pas dire, en tant que philosophe, il doit le faire. Non, il est libre. Mais il peut le faire. Oui. Ceci, c'est capital pour l'étude de l'éthique chrétienne que nous faisons maintenant. Parce que si je ne fais pas ça, mon éthique chrétienne devient imaginative. Et donc, c'est un beau rêve. C'est un rêve magnifique. Je rêve sur quelque chose de très grand, très beau. Et je peux dire, pourvu que ce soit vrai. Mais c'est un rêve. Tandis que pour le philosophe qui a atteint la sagesse, donc le philosophe qui a découvert l'existence de Dieu et qui a découvert ce lien qui existe entre Dieu et mon âme humaine de Créateur, le mystère de la révélation n'est pas impossible. Et si le croyant me dit que pour lui c'est la réalité, je respecte ce qu'il me dit comme une réalité et non pas comme un rêve. Parce que pour le croyant, la foi n'est pas un beau rêve, c'est la réalité et la réalité plénière. Et donc le philosophe doit respecter ça. Donc vous voyez, la position que nous prenons implique toute une série d'exigences. Autrement, on perd son temps. Si, au contraire, on accepte ces différentes exigences, parce que, de fait, on peut les accepter comme philosophe, et je dirais même plus, qu'on doit les accepter comme philosophe, le philosophe n'a pas le droit d'accepter des a priori pour miser sa vie sur un pari comme Pascal. Ça, c'est pas philosophique. C'est apologétique. La position de Pascal n'est pas philosophique, c'est évident. Elle est apologétique. Mais, parce qu'il reste dans une hypothèse. Le philosophe va plus loin. Il comprend qu'il y a des hommes auquel j'ai aucune raison de refuser que ce qu'ils disent est un rêve, parce qu'ils distinguent parfaitement dans leur vie le rêve du réel. Ils distinguent parfaitement dans leur vie ce qui est de foi et ce qui est un rêve et ce qui est la réalité philosophique. Distinguant ça, je peux essayer de comprendre ce qu'ils disent. pour cela que la question de Thomas d'Aquin sur la nécessité de la foi dans son traité sur la foi est quelque chose de si important. Nous le verrons. Parce que pour moi, c'est cela qui me permet d'entrer dans cette éthique chrétienne en philosophe. Saint Thomas se pose la question de la nécessité de la foi. Il montre que la foi n'est pas nécessaire pour comprendre la métaphysique. La foi n'est pas donnée pour comprendre la métaphysique. La foi ne m'est pas donnée pour comprendre ce qu'est l'homme et la finalité de l'homme. La foi m'est donnée pour comprendre telle finalité de l'homme. Comprendre que l'homme est fait par la grâce de Dieu pour la vie éternelle, pour la vision béatifique, pour avoir la même vie que Dieu. Je crois que tout repose là-dessus. Alors ça, c'est capital de le comprendre. Si on ne comprend pas ça, je crois que tout le reste tombe. Et c'est très important, vous voyez, quand on parle à un non-croyant, c'est très important de lui préciser avec exactitude pourquoi on croit. Parce que si vous ne lui précisez pas pourquoi vous croyez, vous n'êtes pas pour lui crédible. Vous êtes encore dans un état infantile. Vous croyez parce que vous êtes né dans une famille chrétienne et qu'on vous a instruit dans une famille chrétienne. Et donc ça reste uniquement à ce niveau-là. Ça reste à un niveau de tradition humaine. Je me souviens, c'était à Fribourg. Il y avait un Vietnamien qui était venu à Fribourg, n'étant pas chrétien, un Vietnamien du Nord qui était descendu vers le Sud pour garder sa liberté, et qui était venu à Fribourg faire de la psychologie. Et puis petit à petit, avec le milieu des étudiants français qui étaient là, il s'est intéressé à la foi chrétienne. Puis il s'est converti, il a reçu le baptême à Châteauneuf de Galore, avec Marthe comme marraine. Tant que les Français étaient là autour de lui, les séminaristes espagnols respectaient, ne disaient rien. Mais je crois bien que c'était pour la fête de Noël. Tous les Français étaient retournés chez eux. Il est resté seul au milieu des séminaristes espagnols. C'est lui qui m'a raconté ça. Et les séminaristes espagnols lui ont dit, on ne comprend pas du tout que tu te sois fait chrétien. Tu es vietnamien. Donc la tradition religieuse de ton pays et de tes parents, ce n'est pas le christianisme. Donc tu aurais dû, venant ici, comprendre qu'il faut entrer plus profondément dans des traditions religieuses. Mais rester dans des traditions religieuses. Alors lui, il les a regardés. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que pour vous la foi? C'était des séminaristes espagnols. Qu'est-ce que c'est que pour vous la foi? Alors il a dit, mais on est né dans une tradition chrétienne. On est né de parents chrétiens. Mais c'est normal que nous soyons catholiques et croyants. Ça fait partie de notre tradition. Alors lui a dit, la foi, ce n'est pas une tradition familiale. La foi, c'est un contact direct avec Jésus. C'est parce que Jésus existe que je suis catholique et chrétien. Si vous, vous dites que vous êtes chrétien à cause de vos traditions, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes des hommes religieux qui respectent des traditions religieuses. Mais vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas la foi. C'est pas si mal, hein, comme petit duel. leurs parents ont bloqué, ont confondu tradition religieuse, tradition familiale et foi. Alors, ils ont voulu prendre leur autonomie, leur indépendance. Ils ont jeté les traditions familiales. Et en jetant les traditions familiales, ils ont jeté leur foi, oubliant que la foi était un acte personnel, indépendant de la famille, avec le Christ vivant. Et si on est croyant, c'est parce que le Christ est vivant, au-delà de toutes les traditions familiales, au-delà de toutes les traditions. Vous voyez, c'est pour ça que c'est si important pour nous. Et si je veux comprendre l'éthique chrétienne, et si je ne vois pas ça, alors à ce moment-là, je fais une éthique de tradition religieuse. Or, faut-il faire une éthique de tradition religieuse? Je ne crois pas. Tandis qu'il y a une éthique chrétienne. Il faut comprendre la différence entre les deux. Si je suis réaliste et que le Christ existe et qu'il existe pour les hommes, je n'ai pas le droit a priori de dire ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose dans le chrétien qui dépasse toute tradition religieuse. Et avec les traditions religieuses, toute tradition familiale. La foi me met en contact direct avec le Christ pour me donner une nouvelle finalité. Et quand on m'a raconté ça, qu'il m'a dit ça, j'ai dit, vous avez eu raison. Il ne faut pas hésiter de continuer les secouer. Parce que ces séminaristes dits catholiques, dits chrétiens ne le sont pas. Ils sont plus espagnols que chrétiens. Vous voyez, leur christianisme repose sur des traditions religieuses et familiales. Et ça, ça existe constamment. Oui, ça existe constamment. Vous pouvez me dire que j'allais presque dire, je crois, qu'au moins 50% de jeunes qui quittent le christianisme font ce blocage. Parce qu'on les a mal éduqués. On a fait croire que le christianisme était aller à la messe le dimanche, en famille, évidemment. Que la foi, c'était la prière en famille. Non, c'est très bien, je n'ai rien contre ces traditions familiales. Et il faut que famille chrétienne fasse attention à ça. Le journal. Pour montrer que ce n'est pas famille chrétienne qui est la foi. Famille chrétienne, c'est une modalité d'être chrétien. Mais je ne fais pas partie de famille chrétienne. Le moine est au-dessus. Alors il faudrait mettre un journal au-delà de la famille chrétienne, le moine. Super famille chrétienne, le moine. Parce que c'est très dangereux dans le monde d'aujourd'hui, ça, de faire ces blocages. Et ça se fait constamment. Oui. Quand on fait des blocages politiques avec le point de vue christianisme, on fait des blocages familiales avec la foi. Alors, je crois que si on veut comprendre le problème de l'éthique chrétienne, il faut tout de suite comprendre qu'il y a un problème de réalisme et pas de tradition. La tradition, au plan philosophique, c'est très respectable, mais c'est de l'ordre de l'opinion. Et je ne veux pas faire une philosophie, du moins une éthique reposant sur l'opinion. Vous voyez, ce serait une histoire. Et puis c'est tout. Tandis que, puisque, pour le croyant, le Christ est vivant. même et que je peux l'atteindre directement par la foi, à ce moment-là, pour le philosophe, il y a un problème de réalisme, pas un problème de culture. Autrement, c'est un problème de culture. Il y a une manière de vivre dans une famille africaine qui n'est pas la même qu'une famille européenne, qui n'est pas la même qu'une famille américaine. C'est évident. Il y a différentes manières. Ou l'Inde, encore une autre manière. Donc ça, c'est des traditions. Ce sont des opinions respectables. C'est évident, respectables. Mais ce sont des traditions. Mon éthique chrétienne ne repose pas sur des opinions, puisque je veux une philosophie réaliste. Et l'opinion ne me met pas directement avec la réalité. L'opinion me fait toucher la réalité par la médiation d'une personne qui croit, qui a telle opinion. Et c'est du vécu. L'opinion, c'est du vécu. Alors, je ne fais pas une philosophie du vécu. Je fais une philosophie de ce qui est. Or, si quelqu'un me dit que le Christ est maintenant, qu'il existe maintenant, qu'il est vivant maintenant, et que ce qu'il est venu m'apporter quand il est venu sur la terre d'une manière visible est toujours actuel au plan philosophique, si je suis réaliste, je n'ai pas le droit de dire ça ne m'intéresse pas. Et voyez pourquoi? Parce que le philosophe s'intéresse à tout ce qui est humain. Et il doit s'intéresser à tout ce qui est humain. Je m'intéresse aux mathématiques en philosophie parce qu'il y a des hommes qui sont des mathématiciens. Et je dois me poser la question, est-ce que les mathématiques me donnent une personnalité propre? Pas si commode que ça répond, n'est-ce pas? Je m'intéresse aux sciences et aux techniques parce qu'il y a des hommes qui sont entièrement voués aux sciences et qui sont entièrement dans la technique. Je dois m'intéresser à cela. C'est l'homme qui m'intéresse au fin du philosophique. Pas l'homme de Thelme, du Moyen-Âge, ou l'homme actuel moderne. C'est secondaire, ça. C'est découvrir dans l'homme moderne l'homme, comme dans l'homme du Moyen-Âge, l'homme. Et dans le chrétien, je veux découvrir l'homme. Or, j'ai ce témoignage qu'un chrétien me dit respecte totalement la vérité humaine. Je sais témoignage que du chrétien, que sa foi ou son espérance chrétienne respecte entièrement tout ce qu'il y a d'authentiquement humain dans l'homme, mais que sa foi et sa charité permet à l'homme d'aller plus loin. Et donc que la grâce creuse dans la nature humaine, ou explicite, ou actue, dans sa nature humaine, des richesses qui ne seraient pas actuées par la grâce. Et donc, il y a dans le chrétien un surhomme. Et cela m'intéresse. Le surhomme de Nietzsche m'intéresse pour voir si c'est un mythe ou une réalité. Le surhomme du chrétien m'intéresse pour savoir si c'est un mythe ou une réalité. Oui, il faut être très très précis là-dessus. Parce qu'autrement, on ne comprendra pas du tout que le philosophe puisse parler d'une morale chrétienne. Alors c'est plus philosophique. Ce serait théologique. Mais la vraie théologie... présuppose une philosophie. Et c'est pour ça que je crois vraiment que la théologie morale aujourd'hui est comme arrêtée dans son développement. La plupart des théologiens de théologie morale ne savent plus quoi dire par rapport au problème actuel. La preuve, c'est que le pape a été obligé de parler. Et que ça a touché 80% des théologiens de théologie morale. Parce qu'ils n'ont pas posé le problème d'une éthique chrétienne. S'ils avaient posé le problème d'une éthique chrétienne, ils verraient tout de suite que tout ce qui est chrétien est humain. C'est ça qui est merveilleux. Tout ce qui est chrétien est humain. Mais est surhumain. Reste humain, que jamais la grâce ne me met devant quelque chose qui n'est pas humain. Ce serait monstrueux. Le christianisme ne crée pas des monstres. C'est la différence, voyez, entre le vrai christianisme et l'illuminisme, qui peut créer des choses fausses. Qui peut créer des monstres. Alors là, il faut en avoir l'évidence de ça. Autrement, ce que nous allons faire ne signifie rien du tout. Oui, ce sera un beau rêve. Intéressant sans doute, puisque c'est toujours intéressant, un beau rêve bien construit. Mais c'est un beau rêve. Tandis que là, non. C'est quelque chose qui est capital. Pour l'homme, puisque le christianisme apparaît comme donnant le salut aux hommes, et le seul salut aux hommes, c'est pas l'Église, c'est le Christ, c'est le pape lui-même qui l'a dit, dans ce dialogue avec ce journaliste. Il faut tout le temps reprendre ce petit passage. On a posé au pape, que dites-vous de cet adage, en dehors de l'Église, pas de salut. Le pape a répondu froidement, c'est pas l'Église qui sauve, c'est le Christ qui sauve. C'est merveilleux comme réponse. C'est la seule réponse à donner. Ce qui m'intéresse, c'est de pas faire la philosophie de l'Église, c'est de faire la philosophie du Christ et de la morale qui suit Jésus. Et de comprendre comment Jésus est le seul sauveur. Ça m'intéresse. Philosophiquement, ça m'intéresse. Parce que tout ce qui touche l'homme directement m'intéresse. Je ne peux pas m'abstraire de l'homme au point de vue philosophique. Oui. Tandis que l'Église, c'est à l'intérieur de ma foi chrétienne que l'Église s'édifie. Alors je pourrais aussi avoir un regard philosophique sur l'Église, mais le regard philosophique sur l'Église reviendrait à montrer que l'Église est fidèle au Christ moralement, dans son développement, et que tout ce qui n'est pas fidèle au Christ n'est pas l'Église. Je pourrais le faire, mais voyez, ça n'ajouterait rien. Parce que c'est vraiment le regard sur le Christ qui seul permet une éthique chrétienne. Il faut être très précis là-dessus. Parce qu'on est sur une crête. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement, je crois, extrêmement important pour nous dans le monde d'aujourd'hui. Étant donné que les apologétiques du début du siècle sont complètement périmées. Essayez de lire de temps en temps, pour vous amuser, une apologétique du début du siècle. C'est intéressant, parce que on voit que mais c'est imbuvable aujourd'hui. On ne peut pas donner ça. Impossible. Tandis qu'au contraire, voir comment le levain chrétien de la grâce donner à l'homme le bonheur. Si ce bonheur m'est donné par quelqu'un qui m'est donné gratuitement, je dois accepter cette gratuité si je suis intelligent. L'application au point de vue de la santé, si on en lance un remède hein, en disant ce remède est un remède merveilleux qui guérit du cancer, je vous dis non, moi je reste dans la vieille école, c'est beaucoup mieux. Je me dis mais non, c'est bien plus direct. Vous direz écoutez, c'est triste, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous cherchez la vérité? Si vous cherchez la vérité, quelque chose de nouveau qui vous est donné, si ce quelque chose de nouveau est authentique et vrai, et vous devez vous en servir. Ce n'est pas l'aspect vieillesse, ancienneté, même dans l'ordre moral, qui fait un critère de vérité. Ce n'est pas l'aspect original.